Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, la lecture des essais de Montaigne est-elle antidépressive ? Aux États-Unis, une école de psychologie met au point des exercices de thérapie dite dialectique, dont on espère qu'ils aident à guérir les dépressions les plus sévères ainsi que l'anxiété. La thérapie dialectique consiste à pratiquer la lecture de philosophes ou de penseurs reconnus avec l'idée que, s'ils sont bien choisis, elles peuvent permettre d'interpréter autrement ce qui nous arrive. Parmi les auteurs auxquels on peut penser figure évidemment Montaigne, dont les explications enseignaient déjà la reconquête de la tranquillité aux plus accablés de ses contemporains. Ces analyses continuent-elles de valoir pour nous ? La lecture de ces essais demeure-t-elle une sorte d'antidépresseur ? Et que dit la science contemporaine des conseils qu'il nous donne ? Pour le savoir, il faut interroger un psychiatre, qui, en plus d'être un psychiatre, connaissent bien les essais de Montaigne. J'en ai trouvé un, qui a un nom semblant indiquer qu'il n'a pas besoin, lui, d'antidépresseurs. Il s'appelle Michel Lejoyeux. Bonjour Michel Lejoyeux.
Bonjour Étienne Klein.
Vous êtes professeur de psychiatrie à l'université Paris-Cité. Votre spécialité, c'est l'addictologie.
Et la psychiatrie.
Et vous venez de publier un livre qui s'intitule « En bonne santé avec Montaigne », avec comme sous-titre « Esprit sain, corps sain, la meilleure des méthodes ».
Exactement.
Alors c'est un livre qui contient quelques centaines de pages, vous avez beaucoup travaillé.
Énormément, parce que surtout que je suis un tout petit peu sorti de ma zone de confiance pour aller lire un philosophe, moi qui d'habitude pratique et enseigne la médecine.
Oui, enfin, si je puis me permettre, la réponse que vous proposez, oui, la lecture de Montaigne est un antidépresseur, vous auriez pu la trouver déjà, directement, en cherchant l'anagramme des essais de Montaigne.
Mais là, je suis face à un professionnel, donc j'attends avec inquiétude le résultat de l'anagramme.
Ça va vous plaire. Les essais de Montaigne ont pour anagramme idée, idée au pluriel, idée soignant les âmes.
Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux.
Est-ce que c'est bien ça que vous défendez comme thèse dans votre livre ?
C'est exactement ça.
Alors, vous êtes psychiatre, vous l'avez dit. Votre livre parle plutôt du mal-être, de la déprime, de la tristesse, aussi de la colère, moins de la folie.
Oui.
Est-ce que Montaigne peut aider quelqu'un qui est fou à guérir ?
Vous savez, la psychiatrie ne parle pas beaucoup de folie. Il y a dans la folie un côté un peu agressif, un côté un peu discriminatoire presque, j'allais dire, si on reprend l'histoire de la folie de Michel Foucault, on voyait bien que cette folie, c'était quelque chose qu'on refusait. Donc tout notre métier est plutôt d'être du côté de la maladie, de la souffrance, de la prévention et de l'aide. Moi, c'est un peu difficile, vous voyez, dans la vraie vie, que je reçoive quelqu'un en lui disant « Monsieur, vous êtes fou, madame, vous êtes folle, ça va pas forcément bien se passer. »
Non, mais il y a d'autres termes pour désigner les différentes façons qu'elle a de se manifester.
Bien sûr, mais...
Mais est-ce qu'elle fait partie de la raison ? Autrement dit, est-ce que ce qu'on appelle la folie, et que vous appelez autrement, aide à mieux comprendre ce qu'on appelle la raison.
Bien sûr, mais vous savez, c'est toute la médecine. La médecine découvre la santé en étudiant la maladie. Pour un médecin, la santé, c'est l'absence de maladie. Montaigne dit d'ailleurs, il n'y a rien qui soit trop cher en effort de vie, en effort d'argent, pour avoir la santé. Et le plus grand des philosophes, s'il est malade, il est incapable de raisonner. Comme si, au fond, la santé était la base, la condition nécessaire d'une activité intellectuelle.
Alors, est-ce qu'on peut vous poser cette question, à laquelle vous répondez partiellement dans le livre ? Pourquoi Montaigne ? Pourquoi pas Épictète ? Pourquoi pas Schopenhauer ? Spinoza ? Cioran ou quelques autres ?
Parce que j'ai vraiment eu l'impression que Montaigne, plusieurs siècles avant moi, on est au XVIe siècle, mettait en pratique les psychothérapies que j'essaie de faire. D'ailleurs, j'ai voulu faire ce livre de manière très incarnée, en racontant une relation avec une dame qui fait une sorte de montaigno-thérapie. Comme si, au fond, les trois choses que j'essaie d'avancer dans ma pratique. Un, trouver des bons comportements. Comportement physique, comportement à table, comportement dans les relations aux autres. Ça, Montaigne en donne tout le temps des exemples. Deux, trouver les meilleures croyances possibles. Là, on n'est pas loin d'Épictète, évidemment. Mais vous savez, c'est pas à vous que je l'apprendrai, on est moins atteint par les événements eux-mêmes que par l'idée qu'on se fait des événements. Et là, Montaigne nous donne des manières de changer ses idées avec, et c'est ça qui, moi, en tant que médecin et non philosophe, m'a plu, c'est que tout ça a été très incarné dans des sortes de mini consultations. Et par exemple, se croire brave, c'est être brave. Se croire fragile, c'est être fragile. Lutter avec quelqu'un en face de soi qui se croit invincible, c'est très très dur de l'abattre. Et puis la troisième chose qui m'a extraordinairement plu chez Montaigne, c'est quand même sa liberté. On sort, vous savez, d'un moment où vous avez invité des médecins qui assénaient des prescriptions plus péremptoires les unes que les autres, imposées évidemment par la pandémie. Et Montaigne a un peu tendance à vous dire, venez comme vous êtes, venez avec vos défauts, venez avec vos émotions mêlées, avec votre tentation d'être caméléon, vous voyez, on n'est jamais complètement le même en fonction de l'environnement, rester comme ça. Donc cette idée, au fond, là aussi, d'une méthode qui donne des orientations, comme un traitement, mais qui ne soit pas exclusive, qui ne soit pas autoritaire. Cette absence d'autorité, il n'y a pas beaucoup d'autres textes où je l'ai trouvé. Et j'allais dire, d'habitude, je me sens un peu intimidé par l'accès à ces textes. Montaigne ne m'a pas intimidé, il m'a autorisé à avancer un petit peu plus.
Michel Le Joyeux, grâce à vous, j'ai envie de relire quelques extraits de Montaigne, notamment le chapitre intitulé « De l'expérience » dans le livre 3.
Il est formidable.
Et j'ai l'impression qu'il parlait d'Einstein. Einstein est connu pour avoir été capable de se concentrer dans la plus grande agitation. On pouvait parler autour de lui, discuter, rire, faire du bruit. Ça ne l'empêchait pas de réfléchir aux questions qui le préoccupaient. Et Montaigne raconte qu'il a vécu la même chose. En rencontrant un grand savant de l'époque, il dit ceci: je rencontrai, il n'y a pas longtemps, l'un des plus savants hommes de France, l'un de ceux qui jouissent d'un sort qui n'est pas médiocre, en train d'étudier dans le coin d'une salle qu'on lui avait enclose de tapisseries. Et autour de lui, il y avait un vacarme plein de licences fait par ses valets. Il me déclara qu'il faisait son profit de ce tintamarre, comme si, battu par ce bruit, il se repliait et se resserrait davantage sur lui-même pour la contemplation, et comme si cette tempête de voix refoulait ses pensées au-dedans de lui.
Merveilleux, merveilleux. Mais globalement, Montaigne aime bien être et distrait et contredit. Hein. Vous savez, il nous apprend que les bonnes discussions, les bons amis, sont ceux qui nous font changer d'avis, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Il dit d'ailleurs à un moment que peut-être le plaisir dans la vie le plus grand qu'il aurait, indépendamment de ses vignes, hein, qui devait bien aimer aussi, c'est celui de la conversation avec un esprit qui, quelquefois, soit capable de l'opposer. Et puis, cette idée, vous voyez, de la distraction, elle est tout à fait hérétique en psy. En psy, on est dans une logique souvent de la compréhension. Quand quelqu'un va pas bien, on lui dit « assieds-toi là, quelle est l'origine de ton mal ?» Et Montaigne dit « ce qu'on peut faire de mieux à quelqu'un qui ne va pas bien, c'est de le distraire. » Il vous prend un exemple, si vous devez traverser un pont et que vous êtes pris de vertige, est-ce qu'il faut que vous compreniez pourquoi vous avez peur ou est-ce qu'il faut que quelqu'un vous distrait un peu au moment où vous passez? Laquelle des deux solutions va le mieux marcher? Donc cette idée au fond d'une psychologie qui distrait, qui autorise finalement le changement d'idée plus qu'une sorte d'analyse de la cause des émotions, ça, on le trouve chez lui et c'est très actuel.
Ou bien ce sont des idées qui contredisent ce qu'on pense.
Absolument.
Ce qui aide à changer de point de vue. Il dit quelque part, la pensée saine se contredit. Mais en quoi cela peut-il aider quelqu'un qui vous dit qu'il ne va pas bien et vient vous consulter?
Alors par exemple, vous avez commencé, la lecture de Montaigne est-elle une forme d'antidépresseur? Montaigne nous apprend des choses extrêmement concrètes. Première chose, il fait la différence entre ce qu'il appelle le grand chagrin, que j'appellerais aujourd'hui la dépression majeure, au sens de maladie dépressive. Vous pouvez toujours tenir le plus grand des discours à quelqu'un qui a une maladie dépressive, vous ne l'aiderez pas. Le problème est médical. Montaigne le dit très bien, quand on est atteint d'un grand chagrin, on est pétrifié. L'esprit s'arrête, le corps s'arrête. Donc vous voyez, on n'a pas cette confusion. Deuxième sujet, la tristesse. Et vous voyez, les deux n'ont rien à voir. Et on retrouve la psychiatrie de notre siècle qui fait la différence entre l'émotion douloureuse qu'on travaille au plan psychologique et la maladie dépressive qu'on traite. Et qu'est-ce qu'il nous dit sur la tristesse, Montaigne? Il nous dit, d'abord, il ne faut pas l'aimer. Je vois J'ai tellement eu envie de le dire, ça, en consultation. Alors, je m'autorise à l'écrire. Vous savez, c'est peut-être ça, faire un livre, c'est des fois s'autoriser à écrire ce qu'on peut pas dire dans la vie, hein, ou ce qu'on a. Les psys sont obligés de se réfréner beaucoup. Et au fond, dire à quelqu'un, mais arrêtez d'aimer votre tristesse. Arrêtez de vous construire un musée de la tristesse. Arrêtez de faire une sorte de compagnonnage de tristesse. Et pour ça, Montaigne propose des techniques qui sont très proches des thérapies comportementales. Considérez la tristesse comme une voix qui se trompe. Considérez la tristesse comme une voix étrangère. Vous voyez, on est à milieu de cette mise en culture de la mélancolie qu'on pourra voir dans le romantisme, etc. Là, on a quelqu'un qui est très thérapeute et qui nous explique, et je l'explique évidemment dans le livre, comment très précisément, très concrètement, ces croyances tristes peuvent être mises à distance.
Mais comment est-ce qu'on peut le faire, techniquement ?
Alors techniquement, plusieurs choses. D'abord, c'est important, c'est pas à vous que je vais dire, vous qui êtes tellement un homme de parole, que la parole est importante. Et entendre qu'on n'est pas obligé d'adorer sa tristesse, qu'elle n'est pas consubstantielle de soi-même, qu'un esprit n'est jamais condamné ni au pessimisme ni à la tristesse, est une chose importante. L'autre chose, c'est ce que je vous disais, c'est la diversion. On a le droit, au sens originel du terme, de se divertir. Vous savez, un médecin, c'est quelquefois quelqu'un qui donne des orientations et qui autorise. Moi, je suis frappé à quel point, par exemple, dans un moment de deuil, dans un moment de difficulté, on pourrait dire un surmoi si on était dans un autre registre, va vous interdire cette diversion. Donc, se dire qu'elle est autorisée, aller même un peu plus loin, je m'amuse à aller un petit peu plus loin dans le livre, se constituer une petite sacoche de diversion avec ses meilleures phrases, ses meilleures musiques. Ça, ce sont des choses qui sont, au fond, les outils. Vous parliez des thérapies dialectiques, qui sont les outils des psychothérapies les plus modernes et qui sont vraiment initiées. Alors, au départ, évidemment, par Épictète. Mais, voyez, Montaigne est beaucoup plus jouisseur, j'allais dire, qu'Épictète. Je n'ai pas ressenti assez de plaisir et de jouissance chez Épictète pour le conseiller, le prescrire comme ses conseils de Montaigne.
Mais pourtant, Michel Lejoyeux, il y a des tristesses qui ont une cause bien définie, qui sont en quelque sorte naturelles. Je pense au deuil, par exemple.
Bien sûr.
Mais vous laissez entendre, vous, que la tristesse est une sorte de poison qui vient corroder la vie de l'esprit, la vie du corps, et qui engendre par la suite d'autres pathologies.
J'entends deux choses. La tristesse, c'est en nous. Celui qui dirait qu'il n'a pas de tristesse en soi se tromperait. Mais ce qui est, vous savez, c'est cette merveilleuse phrase d'Alain, le pessimisme est de nature, l'optimisme est de combat. C'est pas parce qu'on est triste qu'on n'a pas le droit de s'autoriser à un moment à ne plus l'aimer, cette tristesse, même si elle est là. Et là aussi, Montaigne parle de quelque chose que les recherches les plus récentes sur l'émotion montrent, c'est que les émotions sont toujours diverses, sont toujours multiples. Une émotion normale est une émotion mêlée. Il y a que quelques échelles très mécanistiques qui vous feraient croire que vous êtes tout le temps heureux. C'est pas vrai. Hein, dans la vraie vie et dans toute recherche là-dessus, on sait que les émotions sont mêlées et on sait qu'on a le droit, c'est un peu ce que fait Montaigne, de détourner un tout petit peu le regard vers ce qui n'est pas que de la tristesse. Donc tristesse, oui, mais acceptons cette idée de ne pas en faire son musée ou sa base de réflexion intellectuelle.
Mais vous-même, Michel Lejoyeux, vous lisez Montaigne comme s'il était un thérapeute. Enfin, vous reconnaissez dans ses propos des phrases qui peuvent agir comme celles que pourrait prononcer un thérapeute d'aujourd'hui. Et est-ce que lui-même, il avait le sentiment d'être un guérisseur des âmes ? Il n'était pas médecin, il n'avait pas de formation en médecine, je crois.
Non, alors il a beaucoup subi la médecine de son époque, des chirurgiens extrêmement violents. Et vous savez, il était atteint d'une maladie qui s'appelle la gravelle, hein, qui était des coliques néphrétiques.
Très douloureuses.
Très douloureuses. Quand on lui a proposé de le découper complètement, il a préféré aller en Italie, se baigner dans les bains chauds de l'Italie, ce qui était quand même plus sympathique, et de rencontrer la culture italienne. Montaigne n'était évidemment pas un thérapeute. Je pense, pour ne l'avoir pas connu, que malgré tout, c'était quelqu'un qui n'aimait pas le conflit et qui était capable d'amoindrir les conflits. Évidemment, à son époque, on parlait pas de thérapie, mais ce qu'il dit de la médecine, en plus, il adore pas la médecine, c'est qu'il dit « j'adore payer mes médecins ». J'adore les rémunérer, parce qu'il n'y a pas de raison, je les fais travailler, mais j'adore aussi ne pas leur faire toujours confiance. Vous voyez, il y a une sorte de liberté, d'anarchisme individuel chez Montaigne, qui est aussi quelque chose qui est un facteur de résilience.
Alors, il a subi des drames dans son existence, il a perdu 5 de ses 6 enfants, il a assisté à des événements historiques dramatiques, notamment la Saint-Barthélemy, différents massacres. On pourrait dire qu'il a subi plus d'affronts difficiles dans sa propre existence que nous-mêmes, la plupart du temps. Et pourtant, il y a une sorte de sagesse qui transpire de ses propos, quelles que soient les circonstances.
Oui, parce que ce qui, à mon avis, le protège et nous protège, c'est peut-être deux choses. La première, c'est, si on voulait le dire en termes modernes, c'est l'insight. C'est la capacité à regarder en soi. Ce qui est quand même extraordinaire chez Montaigne. Vous avez vu, vous avez trouvé, il y a une phrase d'un auteur américain qui dit, à chaque fois qu'on lit Montaigne, on a un moment où on se dit, mais ça c'est pas possible. Il a écrit juste pour moi, il me connaît ce gars. Il y a quelque chose, il a percé un de mes secrets. C'est quand même inacceptable. Donc, cette capacité à être totalement intime lui donne aussi une capacité à être totalement concernant. Et puis, l'autre chose qui est quand même aujourd'hui très moderne, c'est quand même cette histoire d'amitié. Hein, on peut difficilement séparer Montaigne de la Boétie parce que c'était lui, parce que c'était moi. À l'époque des réseaux sociaux, à l'époque des 1000 collègues et des 1000 relations qu'on a, Montaigne pose une question extraordinairement iconoclaste. Est-ce que vous avez dans votre vie un meilleur ami ou une meilleure amie? Quelqu'un dont le cœur est assez cousu au vôtre pour qu'on ne voit même pas la couture. Il n'en veut même pas deux. Disons, si les deux vous demandaient des choses contradictoires, vous seriez bien en peine de savoir auquel des deux vous devriez répondre. Et alors, vous parliez tout à l'heure, et c'est passionnant, de recherches récentes. Il y a une recherche coréenne qui a montré que les adolescents, plus ils ont de relations superficielles, de contacts en ligne, de relations qui au fond ne sont pas des vraies amitiés, plus ils sont exposés à la dépression. Et que par contre, plus on est capable d'avoir un ou une amie.
Mais ça c'est une corrélation, c'est pas une causalité.
Bien sûr.
Pardon. C'est peut-être parce qu'ils sont dépressifs qu'ils vont sur les réseaux sociaux.
Peut-être. Il est pas. Je parle devant un orfèvre de la question, mais il est pas impossible quand même. Laissez-moi ce doute là d'une éventuelle causalité. Il n'est pas impossible. D'ailleurs, Montaigne le dit que la multiplication de ces relations artificielles, de ces relations, et d'ailleurs on le voit, je vais essayer de me rattraper sur de la clinique pour ne pas partir sur les statistiques. Et moi, je vois des jeunes qui à un moment ont l'impression que leur univers s'effondre simplement parce qu'ils ont moins de likes, moins de contacts. Ces relations superficielles sont susceptibles de nous abandonner, de nous quitter. Le vrai ami, le parce que c'était lui, parce que c'était moi, celui-là. Alors, Montaigne ne parle pas beaucoup du couple. On pourrait espérer aussi que cette relation se fasse
Mais il parle même pas de sa mère.
Il y a quand même, et sur l'identité de sa mère, comme vous savez, sur tout ça, le sujet est extrêmement complexe. Il semble qu'ils aient passé des dizaines d'années ensemble sans se parler.
Elle parlait pas, oui.
Elle parlait pas, et lui non plus.
Rue des Écoles, il y a une statue de Montaigne, à Paris, et on voit des étudiants qui caressent le pied droit de Montaigne avant d'aller passer un examen. Pourquoi ?
Alors ça, le livre commence là-dessus. Moi, je vais avec mon personnage rue des Écoles.
Elle s'appelle Marie
et on touche le pied. On a le droit, même quand on est un grand raisonnable, un grand scientifique, même quand on est dans votre émission, d'avoir de temps en temps des petits moments de pensée magique, ou est-ce que c'est totalement interdit?
C'est tout à fait autorisé, à condition que ce soit pas trop fréquent, évidemment.
Ou alors, une fois de temps en temps, voilà, on touche les pieds de Montaigne.
Zweig a écrit une biographie de Montaigne, juste avant de se suicider, en 1942. Est-ce qu'il a fait la même lecture que vous de ce que conseille Montaigne? En tout cas, la thérapie n'a pas fonctionné pour lui.
Alors, la thérapie n'a pas fonctionné, probablement parce que Zweig, était, et puis le contexte historique et la montée du nazisme avait complètement désespéré Zweig. Je ne m'autoriserai pas à le dire dans ce sens-là, mais en tout cas, moi j'ai trouvé la lecture de Zweig et justement la comparaison entre la résistance de Montaigne face aux obscurantismes de son temps. Zweig, quand il parle de Montaigne, parle de lui. Il parle de cette envie qu'il a, lui aussi, de résister. Moi, j'ai trouvé justement, si vous voulez, on ne peut parler de Montaigne, je crois, qu'en le personnalisant, qu'en se l'attribuant et en finalement en le rapprochant ou de sa pratique ou de sa culture.
Dans votre livre, Michel Joyeux, vous dites que les études sur la santé mentale des populations après la pandémie de Covid, vont toutes dans le même sens. Elles montrent que nous sommes devenus plus anxieux, plus tristes et plus souvent dépendants de l'alcool et de tranquillisants. Et c'est d'autant plus vrai qu'on était fragiles avant la pandémie.
Bien sûr.
Mais du temps de Montaigne, comment est-ce qu'ils faisaient pour tenir le choc, sachant qu'ils ont vécu des épreuves beaucoup plus dures?
Alors d'abord, on n'a pas du tout idée du niveau de santé mentale de Montaigne. Je pense que de l'époque de Montaigne, je pense que Montaigne était lui-même un grand résilient, un grand résistant. Et c'est là où il est formidable, c'est qu'il traverse tout ce qui nous fait peur, hein, notamment une chose dont on ne parle à peu près jamais, qui est la peur de la mort. Hein, philosopher, c'est apprendre à mourir. Je veux avoir l'idée de la mort en permanence à mon esprit et j'utilise le jardinage, j'utilise le quotidien pour justement y résister dans une société comme la nôtre où au fond la perspective de la mort, et ça a été ça la pandémie, c'est qu'au fond on a vu les morts, on s'est rapproché de la perspective d'une mort était tout à fait insupportable. Montaigne nous donne cette leçon-là de, au fond d'un affrontement plus que d'un écrasement par cette idée.
Mais il dit qu'il faut préférer la santé au bonheur. Alors quand on parle de cette façon, on sous-entend qu'on peut choisir la santé plutôt que le bonheur ou l'inverse.
Oui, en tout cas.
Ce qui veut dire, c'est que la santé, c'est la condition du bonheur.
En tout cas, moi, je ne sais pas ce que c'est que le bonheur. C'est un concept très, pour un médecin, très théorique. Nous, on est déjà très, très heureux quand on n'est pas malade. Vous savez, la médecine a une sorte de conception très proche de Montaigne, c'est-à-dire la santé, c'est la vie dans le silence des organes. Hein, c'est la définition de René Lauriche. Quand on peut mettre à distance ses souffrances, et c'est ça que propose Montaigne.
Parfois, il est très drôle hein, quand il dit qu'il faut apprendre la tempérance. Mais il s'y dit qu'en fait, on nous apprend à vivre quand la vie est passée, cent étudiants ont attrapé la vérole avant d'être arrivés à la leçon que leur fait Aristote sur la tempérance.
Extraordinaire.
Vous qui êtes addictologue, comment est-ce que vous entendez cette phrase?
J'adore cette phrase et j'adore aussi une autre phrase dont je me sers en consultation sur la tempérance, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui a plaisir à avoir un petit veau dans ses bras. La scène est touchante, sauf que la dame continue à porter son veau et à un moment, elle porte un bœuf. C'est exactement ça l'addiction. Voyez, on commence par boire quelques verres qui sont aussi banals que le fait de porter un veau, très doux, très agréable. Et quand le phénomène dure, il devient lourd et il empêche de vivre. Ça, sur la tempérance, il y a aussi cette histoire que j'adore où il raconte l'histoire de la cloche dans sa bibliothèque. La première fois où il entend dans son château, dans sa bibliothèque, cette cloche, ça lui retourne la tête complètement. Et puis il dit au bout d'un certain temps, je ne m'en aperçois plus. Tous les fumeurs le savent, les premières cigarettes, il les fume en respirant profondément. Au bout d'un certain temps, l'addiction, c'est ça, c'est ne plus s'apercevoir, avoir cette habitude. Donc je me sers beaucoup de ces métaphores-là, en tout cas dans ma pratique.
Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seuil de déclenchement, il y a une sorte de tendance qu'on ne voit pas avancer.
Absolument.
Et on se retrouve piégé.
C'est comme l'amour, vous savez, il n'y a pas un seuil de déclenchement pour l'amour non plus. L'addiction, c'est une relation d'amour qui se fixe sur un produit ou sur un objet qui normalement n'est pas un réceptacle d'amour. Donc c'est pas, il n'y a pas un nombre de temps passé avec une personne au-delà duquel vous dites que vous êtes ou pas amoureux.
Comment est-ce qu'il perçoit Montaigne les relations entre le corps et l'esprit? Est-ce qu'il est spinoziste? Est-ce qu'il est cartésien? Bon, Spinoza, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais
oui, enfin,
cartésien aussi.
Il a peut-être pas bien lu Spinoza. En tout cas, il dit quelque chose que je trouve tellement, tellement vrai. Il dit, imaginez qu'un matin, vous n'ayez le temps que de faire soit des exercices du corps, soit des exercices de l'esprit. Il dit, ben, dans ce cas-là, moi, je vous donne un conseil. Faites des exercices du corps, ça vous fera du bien à l'esprit.
Mais la réciproque n'est pas vraie.
La réciproque n'est pas vraie. Et les données récentes, les données neurobiologiques, les données de neuroimagerie montrent que quand on bouge, on va augmenter des tas de facteurs qui sont bons pour les neurones. Je pense aux facteurs de croissance neuronale, je pense aux opioïdes endogènes, alors qu'on n'a jamais tellement montré d'effets très radicaux d'un travail intellectuel sur, par exemple, le facteur de croissance des neurones.
Mais est-ce que le travail intellectuel peut épanouir ?
Sans doute oui, à la condition qu'il ne soit pas Là aussi, il y a une très belle image de Montaigne, qui ne tienne pas du verre à soie. Vous voyez, moi, je m'en sers beaucoup cette idée. Au fond, notre esprit peut être comme un verre à soie. C'est-à-dire, il épanouit, il réfléchit, et puis on est au milieu de notre travail intellectuel, et on finit étouffé comme un verre à soie par son propre travail. Donc, là encore, on a avec Montaigne une pensée assez gaie, assez tonique, qui ne refuse pas évidemment le travail intellectuel, mais qui ne déteste pas non plus l'activité et aussi les bons moments et la bonne chair.
Dans votre livre, vous parlez beaucoup de la colère chez l'enfant, chez l'adolescent et même chez l'adulte. Est-ce que c'est une maladie, la colère ?
Alors c'est une maladie moderne et c'est une maladie chez Montaigne.
Comment est-ce qu'on peut savoir qu'elle est moderne ? Alors, puisque Montaigne en parle déjà en disant que c'est une maladie.
Oui, en tout cas, aujourd'hui, les données aujourd'hui, quand vous prenez quelqu'un qui est en colère, il monte son adrénaline, il accélère son rythme cardiaque, il se fait du mal à ses vaisseaux.
Donc il y a des symptômes physiques.
Il y a des symptômes physiques, il n'y a pas de saine colère, comme le disait quelqu'un. Vous voyez, mais ce que nous raconte Montaigne, c'est exactement la même chose. Comme s'il avait lu, vous voyez, la neurobiologie d'aujourd'hui, il raconte l'histoire d'un maître qui veut châtier son valet et qui lui dit « Je ne te châtierai pas aujourd'hui parce que je suis en colère contre toi. Donc je sais que quand je suis en colère, je ne peux pas réfléchir. » Et il nous donne aussi un conseil qui est tellement utile dans la vie. Il dit « Quand vous voyez quelqu'un en colère devant vous, n'essayez pas de le convaincre, attendez que la colère se passe. On ne raisonne pas quand on est en colère. La colère sidère la capacité à raisonner. » Donc Montaigne est profondément un anti-colérique et les données modernes aussi. Vous savez, colère, en médecine, ça vient du cholédoque hein, et que c'est un accès de bile. Ça a perdu le H au passage.
Mais est-ce que vous, qui êtes psychiatre, vous connaissez des protocoles anti-colère ? Soit pour l'arrêter plus rapidement qu'elle ne pourrait le faire naturellement, soit pour empêcher qu'elle advienne.
Alors, il y a quelques...
Est-ce que vous savez rendre les gens colériques moins coléreux ?
Alors, en tout cas, on sait prendre la colère comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un indice de mal-être. Un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la tristesse. On ne peut pas s'installer dans la colère. On ne peut pas durablement être tout le temps en colère sans que ce soit un indice d'une autre souffrance. Et éventuellement d'une prise de toxique, d'une souffrance dépressive. Et puis il y a un certain nombre de protocoles. Il y a un certain nombre de recherches récentes qui proposent, notamment chez les adolescents, de retrouver... Ce qui est finalement ce qu'on perd quand on est en colère, c'est-à-dire une impression de cohérence de son existence. Quand je suis en colère, c'est que j'ai l'impression que tout est incohérent et qu'en criant, je vais créer une sorte de cohérence brutale. Et puis l'impression que ma vie n'a pas de sens. Donc toutes les expériences qui redonnent du sens et qui redonnent de la cohérence vont contribuer à diminuer la colère. Et puis là encore, comme pour la tristesse, mal nommer les choses, c'est augmenter le malheur du monde.
Camus.
Eh ben, au fond, nommer la colère comme un affect positif, c'est probablement augmenter les maux de l'esprit.
À propos de mots, j'en ai appris un que je ne connaissais pas en vous lisant. La gélotophobie.
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est drôle. La gélotophobie, alors c'est
ça m'a fait rire.
Oui, la gélotophobie, ça n'a rien à voir avec les glaces. C'est vu chez.
Ni avec le loto.
Ni avec le loto. Ça a été montré chez des adolescents justement colériques qui, au fond, ont une mauvaise interprétation du sourire. D'ailleurs, en général, nous, quand on voit quelqu'un sourire, c'est plutôt un indice de sécurité. C'est plutôt qu'on est dans une situation rassurante. Eux ont l'impression que tout rire ou tout sourire devant eux est une menace, une moquerie, une défiance. Et il y a même des protocoles qui traitent la gélotophobie en apprenant à des jeunes qui sont tellement instables quant à leur image à tolérer ces rires ou ces sourires qui sont en face d'eux.
J'ai appris un autre mot, l'alexithymie.
L'alexithymie.
C'est quoi ?
Alors, l'alexithymie, qui est honnêtement plus souvent utilisé
en physique
que la gélotophobie. La gélotophobie, j'étais content de le trouver celui-là. Vous me trouverez un anagramme sur la gélotophobie.
Un anagramme sur la
A, privatif, lexi, lire, timi, les émotions. Ça a été inventé par un psychiatre des années 1950, il s'appelait Georges Sifneos. C'est l'incapacité à lire ses émotions. Oui, c'est pour ça qu'il y a tout un courant. Aujourd'hui, il faut développer son intelligence émotionnelle, il faut lire ses émotions. Et Montaigne et ça m'a beaucoup plu parce que c'est très iconoclaste, dit « Moi, pour résister à la tristesse, j'encroûte mon esprit ». Pour le dire autrement, quand je désire, j'essaie de désirer pas trop fort, histoire de ne pas être déçu. Donc, vous voyez, face à un courant qui voudrait qu'on soit en permanence à l'écoute de la moindre de ses émotions, on lui dit « Encroutons-nous un peu, autorisons-nous un peu d'alexithymie à condition qu'elle fût protectrice. »
C'est la voie du milieu.
La voie du milieu, exactement.
Expliquez-nous, Michel Joyeux, comment on peut faire boire un verre de lait à un adolescent qui ne veut pas boire de lait en lui parlant de cannibale.
Ah oui. Alors, en se rappelant, on a un petit intermédiaire entre les deux, c'est Gregory Bateson. Gregory Bateson, c'était un psychologue américain qui travaillait à côté de San Francisco, à Palo Alto, et qui avait inventé ce qui s'appelait l'injonction paradoxale. Tout ça pour dire que, en général, nous faisons ce qu'on nous interdit et nous ne faisons pas ce qu'on nous demande de faire.
Donc, vous interdisez à quelqu'un qui est anorexique de manger.
Voilà, et ça peut éventuellement marcher. C'est ce qu'on appelle aussi en médecine la prescription de symptômes. Et dans son essai sur les cannibales, notre cher Montaigne va dire, écoutez, il y a une tribu qui est formidable, qui a une grande qualité morale, une grande qualité éthique. La seule chose, c'est qu'ils se mangent entre eux quand ils ont des invités, mais ils sont pas très guerriers et ils se mangent entre eux. Et au fond, cette défense des cannibales est une sorte d'injonction paradoxale. Vous voyez, si aujourd'hui quelqu'un se mettait à dire que l'avenir de la sociabilité était dans le cannibalisme, on aurait un peu du mal. Et pourtant, c'est ce que fait Montaigne. Vous voyez, comme quoi il n'est pas en retard d'une provocation.
Et alors, l'adolescent.
Alors l'adolescent.
Qui veut pas boire de lait.
On lui raconte d'abord cette histoire de cannibale. Il dit que c'est affreux. Et on lui dit, écoute, je vais te raconter l'histoire des cannibales. Et finalement, il accepte qu'il peut changer d'avis. Et le stade d'après, on lui dit, écoute, ne bois pas ce verre de lait. Et pareil, il va accepter qu'il peut changer d'avis. En tout cas, c'est Gregory Bateson qui se faisait fort à l'époque donc de la psychologie de Palo Alto de faire boire à un adolescent, un verre de lait entier. C'est une expérience qu'on peut essayer de reproduire chez ses proches sans garantie du tout de résultat.
Et en parlant d'adolescent, comment est-ce qu'on peut théoriser l'idée qu'une bibliothèque pleine de livres non lus vaut mieux que pas de bibliothèque du tout?
Oui, parce que là encore, c'est Montaigne autorise deux choses formidables sur les livres. Il dit, j'essaye une ou deux fois, il dit, je livre un ou deux assauts au livre. Et si je n'y arrive pas, je laisse tomber. Vous voyez, c'est extrêmement libérateur. Moi, ça m'a fait un bien fou. Il y a des tas de livres que j'ai jamais réussi ni à commencer, ni à finir. Et il dit, n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut dire ça ici, sur une chaîne aussi sérieuse que la vôtre? Vous voyez, mais préférez, autorisez-vous des anthologies, autorisez-vous des témoignages. Au fond, ce qui est important, c'est d'avoir des livres faciles et qu'on lit. Alors chacun a son niveau et évidemment son degré de facilité. Et dernière chose qu'il dit qui est formidable, c'est qu'on a le droit de donner son avis sur des livres, même si on n'y connaît rien, même si on n'est pas un spécialiste du domaine. Donc on peut avoir des livres...
Donc il incite à l'ultra-crépidarianisme.
Absolument.
Mais d'ailleurs, il dit aussi qu'il faut se méfier des livres abscons écrits avec un jargon insupportable. Il rejoint d'ailleurs Schopenhauer qui disait que l'écriture absconse est une technique ressemblant à l'art de la pieuvre qui répand autour d'elle une encre noire lorsqu'elle se sent en danger, puis déguerpit au plus vite pour rejoindre des eaux plus claires.
Exactement. Vous savez, Montaigne définit la bonne foi.
Et il dit la cohérence.
Quelqu'un de bonne foi, c'est quelqu'un qui est capable de se décrire, de raconter ses échecs. Parce qu'une vie normale sans échec est une vie quand même très inquiétante. De ne pas forcément être à votre service, de ne pas vouloir tout le temps vous faire plaisir et de parler clairement. Et quand les quatre propositions sont inversées, on n'est pas loin ou d'un pervers ou d'un manipulateur.
C'est quoi un pervers, au sens psychiatrique du terme?
Au sens psychiatrique du terme, un pervers, c'est quelqu'un qui éprouve du plaisir dans la souffrance et dans l'emprise de l'autre. C'est quelqu'un qui va vouloir...
Dans l'emprise qu'il exerce sur l'autre, pas qu'il subit.
Qu'il exerce sur l'autre. C'est quelqu'un qui va vouloir, selon des scénarios souvent fixes, vous faire accomplir des comportements dont pour lui le plaisir est que vous les accomplissiez. Et donc si vous avez votre petite machine Je montre le fonctionnement d'une machine à détecter les pervers. Et si vous avez votre petite machine à détecter les pervers, c'est-à-dire que quand on comprend pas quelqu'un, c'est pas bon signe, voyez. Même si après des années de culte de l'hermétisme, revenons à Montaigne et quand. Parce que finalement, les deux manières de résister à
un pervers. Il faut jamais faire semblant de comprendre, c'est ça qu'il dit.
En tout cas, il faut fuir quand quelqu'un est incompréhensible. Il faut savoir qu'il recherche une emprise par l'hermétisme. Et au fond, si je cherche à exercer un pouvoir par la non-compréhension. Et face à un pervers, un, on essaie de le repérer le plus tôt possible, que ce soit dans la vie intime ou dans la vie professionnelle. Et deux, la seule réponse possible à la perversion, c'est la non-action, le non-jeu avec lui.
Est-ce qu'il existe des pensées qu'on puisse qualifier de toxiques? Si oui, comment les repérer et comment s'en défaire?
Alors, toxique, je pense que la tristesse en est une. En psychologie comportementale, on définit comme toxique l'absence de doute, exactement comme Montaigne. C'est-à-dire la pensée qu'on appelle en tout ou rien, ou la pensée absolutiste. Ça, c'est, vous voyez, soit j'ai un excellent ami, soit je n'en ai pas du tout. Et l'autre pensée, qui peut être une pensée toxique, c'est, et là aussi ça rejoint ce que nous apprend Montaigne, c'est la pensée dans l'anticipation. Bon, là on est à peu près bien, mais comment est-ce qu'on va être dans une heure? Est-ce qu'on est sûr que dans une heure on sera bien? La réponse est non. Et au fond...
Il faut l'accepter.
Il faut l'accepter et il faut surtout, si on suit Montaigne, repérer à quel point nous sommes incapables d'anticiper. Il donne un ou deux très beaux exemples. Il donne l'exemple d'un roi qui avait une peur absolument absurde, mais qui nous montre que c'est que l'absurdité de l'anticipation, qui était qu'on voit ses parties intimes, ses organes sexuels, une fois qu'il serait mort. Vous voyez, donc il avait peur de ça. Donc il avait mis dans son testament qu'on devait le couvrir d'une culotte après sa mort. Montaigne d'ailleurs disant, il aurait dû faire attention à ce que la personne qui lui mettait cette culotte après sa mort ait lui-même les yeux bandés. Il donne l'exemple d'un autre qui s'intéresse à ses obsèques, vous voyez, et qui invite des gens, disant « vous viendrez bien à mes obsèques », et il oppose à ça Platon, qui disait « ben moi, mes obsèques, peu importe, les obsèques sont pas faits pour les morts, elles sont faites pour ceux qui survivent ».
On cite souvent Kant disant que l'intelligence d'une personne se mesure à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Est-ce que c'est vraiment une mesure de l'intelligence, ou est-ce que c'est pas plutôt une mesure de la sagesse?
Oui, et de l'intelligence et de la sagesse, et moi je dirais même de la santé. Vous voyez, parce que on sort quand même, je sors d'un moment où l'hôpital a été traversé par une grande incertitude, on n'était pas complètement exposé au Covid, on n'était pas complètement exposé à la pandémie. Donc au fond, nous ne pouvons résister à l'incertitude qu'avec un niveau de tolérance et d'adaptabilité à l'incertitude, ce qui veut dire vraiment renoncer aux grandes idéologies, à ce sentiment de toute puissance, de toute explication, de toute anticipation.
Vous dites aussi, enfin c'est Montaigne qui le dit, que les fausses croyances sont mauvaises pour la santé.
Oui, bien sûr. Parce que...
Mais alors, en ce moment, beaucoup de gens doivent aller mal.
Alors, il y a deux choses différentes. Il y a les fausses croyances que vous affrontez tellement bien sur les sciences, etc. Ce que Montaigne veut dire, c'est... comme la psychologie cognitive, c'est que se croire menacé vous met dans une situation authentique de menace. Se croire en danger fait battre votre cœur et vous met dans une situation d'anxiété.
Oui, vous citez une psychologue de Tours qui s'appelle, je crois, Anita Robert, qui a montré par une expérience réalisée sur 235 personnes que les fausses croyances augmentent l'anxiété et la tristesse, qui elle-même déclenche des formes de pathologie physique.
Absolument, puisque tout part probablement des émotions que nous traversons tous et de la manière dont nous interprétons ces émotions. Et on a là, avec les exemples, avec les histoires de Montaigne, une nouvelle manière, enfin une nouvelle et très ancienne manière évidemment, de revisiter ces émotions. C'est comme ça que ça travaille les psychothérapies dialectiques ou que travaillent les essais de Montaigne. C'est-à-dire qu'on vous garantit pas une vie sans émotions négatives, mais on peut travailler, toujours l'histoire d'Épictète indépassable, sur la manière dont nous percevons les événements.
Avec ce personnage que vous appelez Marie, vous pratiquez une sorte de thérapie dialectique, mais avec un seul auteur, qui est Montaigne. Mais on peut aussi varier les auteurs.
Oui, après il y a une limite qui est mon incompétence sur les autres auteurs. Donc là, j'ai fait évidemment que d'autres auteurs. Mais là encore, je trouve que il y a une cohérence dans cette offre presque médicale que propose Montaigne. Moi, j'ai été très frappé par ça. Au fond, par cette cohérence, j'aurais pas eu envie, au-delà de mon incompétence dans les réflexions d'autres auteurs, de rajouter autre chose. À un moment, je m'étais même dit, vous voyez, les essais par essais sont une suite de séquences de thérapie. Vous voyez, on pourrait commencer. Vous avez vu, les premiers essais sont très directifs. Hein, il se présente, il est un peu cassant. Et puis, au dernier essai, on est un peu plus détendu. Ils sont beaucoup plus longs. Hein. Le troisième livre est beaucoup
plus. C'est de plus en plus long. Cool.
Oui. Plus en plus cool, de plus en plus digressif et de plus en plus. Oui, il ne parle pas de ses rots, de ses paix. Au début, il faut vraiment qu'on en arrive au troisième tome pour qu'il parle des mauvaises odeurs, du fait qu'on ne se parfume pas, des choses où on a l'impression que lui se déboutonne un petit peu et autorise cette souplesse relationnelle.
Qu'est-ce qu'on appelle les thérapies cognitives ? On a parlé des thérapies dialectiques, mais alors les cognitives, ça consiste en quoi ?
Thérapie cognitive, la cognition, c'est la pensée, c'est la manière de penser. Elle repose sur l'idée que nous avons des pensées automatiques. Prenons un exemple simple, si je suis timide, c'est que je pense que quand je suis exposé à un groupe, je vais forcément être en difficulté, je vais forcément avoir l'air idiot. Et effectivement, je suis en difficulté. Et les thérapies cognitives nous montrent qu'on peut changer ses pensées automatiques. Ou qu'on peut, une histoire formidable de Montaigne, s'adapter. Il oppose les extravertis et les timides, le parler prompt et le parler rapide. Et il dit au fond, c'est pas mieux d'être l'un ou l'autre, il faut juste trouver le bon métier. Si vous avez le parler lent, eh ben, vous devez être éventuellement conférencier, préparer vos cours, enseigner à l'université. Par contre, pour être avocat ou pour répondre à des questions éventuellement imprévues, il vaut mieux avoir un parler rapide.
Ce qui est un peu votre cas.
Essayons.
Alors, dans votre livre et même à ce micro, vous avez donné des exemples de conseils donnés par Montaigne qui ont été vérifiés par des études comportementales, psychologiques ou autres. Mais est-ce qu'il y a des cas où il s'est trompé ? Où il donne une recommandation que aucune donnée n'est venue confirmer ou peut-être même infirmer.
J'ai pas. Vous allez me penser totalement sous emprise, mais j'ai pas beaucoup vu. Je pense. Il y a des choses où il est provocateur. La question de l'instinct paternel ou maternel est très choquante.
Il dit que ça n'a rien de naturel.
Ouais, il dit qu'on n'aime pas naturellement ses enfants. Je ne partirai pas sur ce sujet-là, savoir s'il s'est trompé ou pas. Je pense qu'il se trompe sur ce qui est de l'imprégnation culturelle de son époque. Et je pense notamment, là où il se trompe le plus grossièrement, c'est, d'ailleurs je lui ai enlevé, je ne l'ai pas mis dans le livre, c'est les moments où il parle du couple et des relations entre les hommes et les femmes, où là il y a des choses qui évidemment sont très connotées de son époque et du XVIe siècle.
Ou alors quand il dit qu'il vaut mieux faire l'amour couché que debout.
Oui, ça je ne sais pas s'il se trompe.
Michel Lejoyeux, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que en fait, Montaigne c'est un thérapeute très efficace pour les gens qui vont pas trop mal?
Totalement. Totalement. Et je serais d'accord pour dire que vous êtes un extraordinaire lecteur de ce que j'ai essayé de faire. Pardon de vous le dire comme ça, mais c'est exactement le sujet. D'ailleurs,
je vous ai consacré un week-end entier.
Bah écoutez, j'en suis honoré et heureux. Et c'est même ce que j'ai écrit au début du livre, vous voyez. Si vous êtes malade, si vous avez une pathologie mentale grave, c'est pas avec un livre, c'est pas avec une thérapie dialectique qu'on va vous traiter. Il y a beaucoup d'autres approches très médicales. Et effectivement, ça va plus être quand, voilà. Je suis complètement d'accord.
Alors, pour ceux qui vont pas trop mal, je recommande la lecture de votre livre En bonne santé avec Montaigne, livre de Michel Lejoyeux qui vient de paraître. Merci à vous.
Merci.
C'était Science en question par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la prise de son Marie-Claire Oumabadi et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.